journal des auditeurs avec Stéphanie Hartmann sur Africa numéro 1. Africa.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission, bienvenue dans le journal des auditeurs, l'émission où vous avez la parole. Pour participer en direct, composez le 01 55 07 58 00. Vous pouvez également nous envoyer des messages sur les réseaux sociaux, notamment notre page Facebook, facebook.com/journal des auditeurs. Aujourd'hui dans le JDA, le règne de la terreur au Congo entre procès politiques, arrestations de journalistes, il ne semble pas être pas bon d'émettre des opinions en République du Congo. Dans ce contexte, quel peut être le rôle de la diaspora congolaise? Nous en parlerons avec Modeste Boukadia, il est président du Cercle des démocrates et républicains du Congo, c'est le CDRC, il appelle à une conférence internationale. Alors, je rappelle le numéro pour participer, poser vos questions à notre invité, réagir à cette situation en République du Congo, c'est le 01 55 07 58 00. Mais avant de parler du Congo, on se tourne vers le répondeur pour écouter une sélection de vos messages.
Le JDA, c'est sur Africa numéro 1.
Oui, bonjour. Le grand chanteur, le Koffi Olomide, le roi de la rumba congolaise. Voilà ce qui se passe dans le monde. Qui tue par l'épée, mourra par l'épée. J'ai dû demander à mes chers frères africains, surtout nous les hommes, de respecter la dignité d'une femme. Ce n'est pas parce que nous sommes les artistes, que nous sommes célèbres, qu'on ne doit pas respecter la dignité d'une femme. La femme doit être respectée. La femme, c'est la mère de l'humanité. C'est la femme qui nous porte dans le ventre pendant 9 mois. Elle court les risques pour nous mettre au monde. Le minimum des choses qu'on demande, c'est le respect. Respecter la femme, ne pas prendre la femme comme un ordure, excusez-moi du terme. Aujourd'hui, Koffi Olomide, grand chanteur renommé dans toute l'Afrique, aujourd'hui, ne peut que payer ce qu'il a semé. Dans la vie, lorsque vous croyez que vous êtes au-dessus de la loi, mais la loi finira par vous rattraper. Parce que j'ai vu des images, des vidéos, je ne sais pas si c'est sa fille. Bon, il était fâché, il se pleure. Mais lorsque tu te pleures, mais n'oublie pas ce que tu fais aussi aux enfants de d'autres gens. Ça fait aussi mal. Parce que ce que tu as fait aux enfants des gens, abuser des gens, des jeunes filles, exploiter les jeunes filles, leur payer à un salaire très minable, les exploiter. Il faut que tu assumes. C'est arrivé à un musicien camerounais qui s'appelle Longué Longué. Excusez-moi du terme de prononcer son nom. Il a assumé, il a fait la prison, il a écopé. Cela donne des leçons. Koffi, si tu es un homme, que tu sais que tu ne te reposes de rien, mais viens en France. J'espère bien que tu as une nationalité européenne. Si j'ai bonne mémoire, tu as des enfants métissés qui sont ici, pas loin de l'île de France. Mais viens répondre à tes actes. Pourquoi tu fuis? Viens répondre. Si tu es innocent, la justice va te libérer. Que l'Afrique soit bénie. Merci.
Oui, allô, bonjour aux Africains de Montréal. Ce matin, je suis en colère. Ce qui s'est passé au Mali samedi. L'opposition sort pour aller manifester main vide. Les autorités amènent la police pour les mater. C'est pas normal. Il y a des députés qui ont porté les drapeaux des Mali. Comment on peut frapper un député qui a porté les drapeaux de son pays? J'ai dit, je condamne ça. Ibrahim Boubacar Keïta, il sortira par les petites portes. C'est pas un président qui mérite d'être président du Mali. Ibrahim Boubacar Keïta, m'adresse les peuples maliens de sanctionner ces présidents dictateurs, de les sanctionner et son fils et sa femme qui sont en train de piller les biens des peuples maliens. Je dis les peuples maliens, bravo. Vendredi, tous les peuples maliens de sortir encore massive contre les dictateurs Ibrahim Boubacar Keïta. Que Dieu bénisse Mali et l'Afrique. Au revoir.
Bonjour, Africa numéro 1, Brice à l'appareil. Voilà, je vous appelle concernant un sujet pour le Mali et les élections présidentielles à venir. Alors pour tous ceux qui s'interrogent et qui s'égosillent à essayer d'anticiper les résultats, alors je ne dis pas que c'est une boule magique, mais j'ai un article du Canard du 23 mai 2018 avec un article intitulé « Macron stratège électoral et militaire au Sahel ». Il exige qu'une offensive anti-djihadiste favorise la réélection du président malien. Alors, c'est un article qui fait 5 minutes à lire. Et où j'explique un petit peu les comment du pourquoi la France interviendrait dans la réélection du président actuel malien. Et Madame Hartmann, comme vous demandez souvent qu'on cite nos sources, c'est un Canard du 23 mai. Voilà, c'est dedans, c'est pas moi qui l'invente. Je dis pas que c'est la réalité, on sait pas, mais bon, n'empêche que voilà, c'est là. Donc pour tous ceux qui iraient dans ce sens-là, ils sont soutenus au moins par cet article-là. Allez, bonne journée à tout le monde, au revoir.
Oui, bonjour Africain numéro 1, bonjour cher auditeur. J'interviens aussi votre antenne ce matin pour laisser ce message par rapport à ce qui se passe à Bamako actuellement dans mon pays. Franchement, je dénonce la dictature qui règne au Mali, soi-disant pays indépendant, mais ça c'est la dictature, pure dictature. Pourquoi? Depuis l'arrivée du président Ibrahim Boubacar Keïta à la tête du pays, la chaîne nationale déjà, l'ORTM, est prise en otage. On voit Keïta à la télé, à la chaîne nationale. On parle que de lui. On ne voit pas les actualités internationales. Keïta sur Keïta. Franchement, on est dans un pays démocratique, ça? Les journalistes, les manifestations, tout est interdit. Ben, où en sommes-nous? Franchement, où en sommes-nous? Il y a eu une manifestation il y a deux jours de cela. La police nationale qui est censée de sécuriser le pays, mais non, ils tirent avec des balles réelles sur la population. Franchement, c'est quoi cette police? Franchement, je le cœur merci. Quand je vois ces images-là, ça me fait mal au cœur. Québécois cherche une seule chose, que c'est le peuple qui l'a mis en place. C'est pas lui seul qui s'est fait élire. C'est le peuple qui l'a mis en place. Qu'il cherche, s'il continue à se conduire comme ça, qu'il chasse ce même peuple qui aura le dernier mot. Merci, Africa numéro 1. Bonne journée à vous tous.
Oui, bonjour, messieurs, dames. Et je vous appelle, vous, les Maliens. Vous attendez tout de Ibeka, qu'il vous fasse tout. Ben, Ibeka, il n'a pas le bâton magique hein, pour faire tout. Il faut que vous compreniez un peu. Calmez-vous un peu. Avant Ibeka, il arrive. Les autres qui ont été là-bas, il y avait combien de présidents qui sont passés? Pourquoi eux, ils vous ont pas tout fait? Et vous demandez tout à Ibeka. Ibeka, il venait en 2013. Le Mali, il était chaos. Il n'y avait même pas des armes. Vous comprenez? Il n'y avait rien du tout. Les terroristes, ils allaient tout prendre. Tous les Maliens, tous les pays à côté, ils allaient tout prendre si la France, ils n'avaient pas sauvé les Maliens. Vous comprenez? Eh, calmez-vous un peu. Oh là là. Ibeka, il peut pas tout faire. Vous comprenez? Ce qu'il a fait, il en a déjà fait trop déjà. Et vous dites qu'il n'a rien fait, il n'a rien fait, il n'a rien fait. Oh, dites quand même le peu qu'il a fait, mais disez-le. Soyez gentils, hein? Soyez gentils avec Ibeka un peu. Oh, vous aussi. Calmez-vous un peu. Allez, salut. C'est Mamadou. Voilà, bye. Oh là là.
Prenez la parole dans le JDA sur Africa numéro 1.
Africa.
Quelques semaines de la présidentielle au Mali, hein, qui aura lieu le 29 juillet prochain, vous l'entendez. Hein, le débat est chaud sur le répondeur d'Africa numéro 1. Aujourd'hui, dans le JDA, on va parler du Congo. Hein, comment combattre le règne de la terreur en République du Congo? Nous en parlons tout de suite avec Modeste Boukadia, président du Cercle des démocrates et républicains du Congo. Modeste Boukadia, bonjour.
Bonjour madame.
Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous en janvier 2016, à quelques semaines de l'élection présidentielle à laquelle vous étiez candidat. Vous avez été arrêté à Brazzaville. Pour quelle raison?
Écoutez, j'ai été arrêté le 15 janvier 2016 à la descente de l'avion, en descendant de l'avion Air France, où 2000 militaires, 3 chars de combat et un hélicoptère de combat m'attendaient. Et puis par là, ils m'ont signifié que j'étais attendu par la police. Mmh. Pour quel motif? Parce que j'avais demandé en 2016, en 2013, au cours d'un meeting populaire, dûment autorisé par le pouvoir, un meeting où j'avais demandé, où les membres de parti avaient brandi des pancartes et des banderoles sur lesquelles étaient imprimées « Démission du gouvernement égale gouvernement d'union nationale ». Donc, j'ai été condamné à 30 ans de travaux forcés par Cotumace à l'époque pour avoir demandé un gouvernement d'union nationale pour régler des problèmes.
Ils ont appelé ça « atteinte à la sûreté de l'État ».
Oui, voilà. Donc demander un gouvernement d'union nationale, c'était une atteinte à la sûreté de l'État. Et puis par la suite, j'ai été transféré à la maison d'arrêt de Pointe-Noire, la deuxième ville du Congo, où 1000 militaires m'attendaient. Et c'est là où, quand j'étais à la maison d'arrêt de Pointe-Noire, je n'ai vu ni juge ni procureur. Et donc, j'ai été arrêté arbitrairement, comme l'a reconnu les Nations Unies, la Commission des droits de l'homme des Nations Unies, qui avait d'ailleurs pris un avis en novembre 2014 de libérer tout le monde. Et 14 personnes ont été libérés, 14 autres personnes sont encore maintenues en prison. Aujourd'hui, Pourtant, ils ont purgé leur peine. Mais ils sont encore en prison
aujourd'hui. Vous avez une liste hein, de militants de votre parti, effectivement, qui ont été jugés, condamnés, qui ont purgé leur peine. Et vous dites, ils sont encore détenus. On va revenir après sur la situation actuelle où les procès pour atteinte à la sûreté de l'État se multiplient, parfois même avec des acteurs proches du régime actuel. On pense au général Dabira.
Oui.
Avant cela, et avant d'écouter nos auditeurs qui sont du côté du Standard, rapidement, quelles étaient vos conditions de détention?
Très difficile, très 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 difficile, puisque j'ai été torturé. Et ils m'ont provoqué un dérèglement cardiaque, ce qu'on appelle en termes de défibrillation auriculaire, qui à tout moment, je pouvais donc succomber d'une embolie pulmonaire. Et puis, j'ai eu des extrasystoles ventriculaires et supraventriculaires, donc, qui m'a entraîné un rythme cardiaque qui était de 250 sur 120, c'est-à-dire 25 sur 16.
Ouais.
J'ai été admis dans une clinique privée. Certains médecins étaient très bien, fort heureusement. Et puis, quand je suis.
À Pointe-Noire,
à la clinique Guenet, pour ne pas la citer. Et puis, par la suite, quand. Les autorités françaises, américaines et des droits de l'homme et bien entendu la diaspora ont manifesté. J'ai été donc évacué sanitaire. Et quand je suis arrivé en France, les médecins m'ont dit que la torture que j'avais subie, plus précisément du directeur de la maison d'arrêt, c'est le directeur lui-même de la maison d'arrêt
qui vous a torturé.
Qui m'a torturé. Et donc, qui est donc un policier, un militaire. Et donc les médecins en France m'avaient dit qu'on m'avait appliqué une technique connue des militaires et des policiers qu'ils appliquent sur les gens et les personnes peuvent mourir, mais on ne décèle pas de quelle façon ils sont morts.
Comment on appelle cette technique?
Je ne sais pas. En tout cas, les médecins...
Ça consistait à quoi?
À faire des prises au niveau de la poitrine et au niveau du dos, de vous faire une certaine prise comme j'avais été, donc en me tordant les bras... Et donc, on manque de souffle et puis on meurt d'étouffement, mais il n'y a aucune... Et c'est là où les médecins de l'hôpital de Chartres, de Bichat et de Boulogne, sur Seine, m'ont dit que j'avais de la chance. Logiquement, je n'aurais pas dû m'en sortir. D'ailleurs, des membres du parti qui sont ici en France avaient reçu des appels, des communications avec les membres du PCT. Et je cite, « Qu'est-ce qu'il attend pour mourir avec ce qu'on lui a fait ?»
Donc pour vous, il y a une véritable volonté d'atteindre à votre vie quand vous étiez détenu à Pointe-Noire.
Absolument, puisque même le directeur technique de la clinique Guenin, quand j'ai étouffé, quand il est venu me voir, parce qu'on avait mis de la peinture dans non loin de la chambre où j'étais, une peinture toxique, et je lui avais dit qu'il a tenté à ma vie. Je cite bien le directeur technique de la clinique Guenin devant le médecin chargé d'hospitalisation, Madame Hélène Garnier, avait dit ceci, c'est pas la peinture qui a failli vous tuer, c'est ce qu'on vous a fait.
Donc c'est une reconnaissance à mi-mot.
Voilà, et j'avais donc demandé au médecin, Madame Hélène Garnier, qu'est-ce qu'on m'a fait? Elle n'a rien dit, elle a seulement haussé les épaules et puis elle est sortie. Ça veut dire qu'effectivement, qu'il y avait une atteinte volontaire à ma vie.
Merci, Modeste Boukadia, pour ce témoignage. On se rend compte, à vous écouter, du climat qui règne actuellement au Congo. On va se diriger du côté du Standard pour écouter les auditeurs. On va tout de suite à Canada, à Montréal, retrouver Abdel Wassi. Abdel Wassi, bonjour.
Oui, bonjour Stéphanie, merci beaucoup. Ça fait plaisir de parler avec vous.
Bien.
De vous avoir bien vu chez Plateau TV5 hier.
Ah oui, c'est une rediffusion parce que je suis passé il y a une semaine ou deux déjà.
Ok, on a savouré ça hier.
Ah bon.
Je crois que c'est l'actualité. Et je vais pointer la phrase de Jean-Baptiste Faga qui disait qu'il a déjà accepté de s'aller à table avec les diables, ne peut pas éviter de se mouiller, même s'il a une langue louche. C'est ça qui se passe au Congo aujourd'hui. Malheureusement, la France est vraiment compatible de cette histoire-là, parce que c'est la France qui a installé Sassou Nguesso au pouvoir, en chassant les Souba. Il a prêté main forte avec des hélicoptères pour chasser le gouvernement les Souba élu démocratiquement. Et aujourd'hui, tout se continue comme ça. Personne n'est plus parlé au Congo maintenant. On se demande s'il y a eu une conférence nationale dans ce pays-là. On est allé avant même la situation aujourd'hui là. C'est pire qu'avant la conférence nationale. C'est-à-dire que personne ne peut plus respirer. Tout le monde est sur. On a peur dans le pays. Et en plus, ça qui n'a plus l'argent. Parce que tout est hypothéqué. Il n'y a plus d'entrée. On doit des salaires aux retraités, aux pensionnaires. Il n'y a plus d'argent. Et imaginez le sort des exploités qui sont là-bas, là, c'est eux qui font les frais. Parce que n'importe quel policier sont dans la ville pour les chauffeurs.
Vous dites que les expatriés à Brazzaville sont rackettés par les policiers pour faire face aux difficultés financières, hein, c'est ça?
Sérieusement alors. Les taximans, ils souffrent. Tout le monde. Parce qu'il n'y a pas d'argent. C'est terrible. Mais le pouvoir. Et pourtant, au lieu de faire, mais il ne faut pas se demander qu'il faut chercher des solutions. Ils pensent qu'il faut opprimer davantage les gens. On va faire des procès, quoi que ce soit. Il n'y aura plus personne pour affronter le président. Tout le monde doit il pense à certainement ses enfants qui ont fait des investissements énormes, qui ne produisent rien. C'est vraiment dommage et triste. Je ne sais pas quelle solution on va avoir ce pays-là. Je crois que la Banque mondiale, les fonds monétaires internationaux qui sont en négociation avec eux, il faut qu'ils mettent la pression. Je n'ai pas accepté les semblants de justice pour voir que ça marche. Ça ne marche pas du tout. Le peuple est opprimé. Le peuple est vraiment opprimé. Et c'est vraiment... On va peut-être compresser davantage qu'il en faut ce peuple-là. Il ne faut pas qu'on arrive encore davantage au pire avant qu'on trouve une solution. Il faut qu'on appelle ça sous le sauf. Qui veut alors qu'on se donne comme quelqu'un qui va raisonner d'autres pays qui ont des problèmes alors que ce qui a poussé lui est plus de problème.
Effectivement, après, vous rappelez à Abdel que le président Denis Sassou Nguesso était invité à l'Élysée en tant que président du Haut Comité de l'Union africaine sur la Libye. Merci Abdel pour ce tableau plutôt complet. Je reviens vers vous dans 3 minutes, Modeste Boukhadia, notamment pour une réaction sur le rôle de la France. C'est ce qu'a souligné Abdel. Avant cela, écoutez Koulibaly rapidement. On avait beaucoup de messages consacrés au Mali sur le répondeur. Bonjour Koulibaly.
Bonjour Madame Hartmann.
Bonjour. Vous voulez faire un parallèle entre le Congo et le Mali?
Oui, les deux Congos même, et en général les démocraties africaines. Franchement, les régimes africains, c'est pas tout à fait une démocratie qu'on aurait souhaité depuis le début des années 90. C'est pas tout à fait des démocrates qui sont élus. C'est-à-dire ils sont élus une fois qu'ils sont élus, qu'ils sont au pouvoir, donc c'est les peuples qui sont opprimés. C'est plus la démocratie.
Est-ce qu'on peut dire, Koulibaly, puisque vous faites le parallèle entre le Congo et le Mali, est-ce qu'on peut dire quand même, au Mali, les journalistes sont davantage libres, on peut exprimer des opinions différentes sans être, sans craindre de se faire emprisonner?
Oui, non, pas du tout, Madame Hartmann. C'est-à-dire, qu'est-ce que je voulais dire? Je compatis à la souffrance de l'invité qui a été incarcéré de façon injuste, je dirais. Donc aussi, il y a eu des journalistes qui ont été assassinés au Mali. Au moins, c'est un journaliste qui a été assassiné au Mali. Kidnappé, il y a les kidnappings. Donc, sous les régimes actuels, démocratiques pourtant. Donc, il y a eu des journalistes qui ont disparu, qui ont été assassinés. Donc, il y a eu... Il y a la liberté d'expression, c'est pas tout à fait...
C'est pas tout à fait ça au Mali, vous nous dites. Hein,
c'est pas tout à fait ça. Donc, la chaîne publique qui est l'ORTM ne diffuse que
le parti au pouvoir.
Voilà, exactement. Donc, ce n'est pas du tout démocratique. La manifestation de l'autre jour, qui était censée être une manifestation pacifique, a été réprimée.
On a l'occasion d'en reparler, Koulibaly, sur cette antenne. D'ailleurs, je vous informe que le grand débat de ce soir sera consacré au Mali.
J'ai entendu un auditeur dire que sur la messagerie qu'il était. Qu'est-ce que Ibeka n'a pas fait? Qu'est-ce qu'Ibeka a fait son mieux? Qu'est-ce qu'il a fait au Mali? Rien du tout.
Koulibaly, si vous permettez, je sais bien, Koulibaly, on parlera beaucoup du Mali dans les semaines à venir. On va rester un peu sur le Congo. On a bien compris que vous faisiez le parallèle, voilà, le Congo et le Mali. Pour vous, la démocratie va mal sur le continent. Modeste Boukhadia, je me tourne vers vous. Effectivement, Abdel Ouassi parlait tout à l'heure de la conférence nationale au Congo en disant finalement la situation aujourd'hui est pire qu'avant la conférence nationale. Vous partagez ?
En effet. D'abord, je partage l'analyse du premier intervenant qui disait qu'aujourd'hui, le Congo est quasiment dans un état de faillite. Mais une faillite frauduleuse, c'est encore pire. Une faillite frauduleuse. Comment un pays de moins de 5 millions d'habitants, avec d'immenses ressources, on se retrouve dans une cessation de paiement et on se demande, c'est un gouvernement qui avait un excédent, un budget excédentaire, et aujourd'hui, il est un gouvernement qui fait la manche. C'est à se poser la question si véritablement l'endettement du Congo est licite, c'est-à-dire réel ou il est virtuel. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, lorsqu'on analyse la situation du Congo avant la conférence nationale, c'est-à-dire les années 90, qui est aujourd'hui pire dans son ensemble. C'est la même situation que la Libye ou la Syrie. Donc c'est pour ça que la solution que nous proposons...
Les groupes armés en moins.
Pardon ?
Les groupes armés en moins.
Non, il y a des groupes armés au Congo.
Qui
sont sous le contrôle du gouvernement.
Voilà,
donc on n'en parle pas, mais parce que plus ou moins, l'information est biaisée.
Donc, chaque représentant du pouvoir, en tout cas chaque membre proche du pouvoir, a aussi ses propres militaires qui sont à sa solde, c'est ce que vous dites.
Écoutez, les miliciens dévolus à chaque membre du gouvernement pour qu'ils soient maintenus au gouvernement, ça existe. Ça existe. Donc c'est pour ça que la façon dont Denis Sassou est en train d'amener le pays, nous arrivons dans une situation de blocage. Comment faire ? Comment faire pour régler ce problème-là ?
Alors justement, on en vient à la situation actuelle, hein, avec tous ces procès en cours. Il y avait le procès de Jean-Marie Michel Mokoko, il y a eu celui du général Dabira. Actuellement, c'est Jean-Martin Bemba, en tout cas, qui vient de se terminer.
Oui, absolument, oui.
Quel regard portez-vous sur tous ces procès ? Est-ce qu'on peut dire qu'après sa réélection de 2016, le président, en tout cas le pouvoir, cherche à faire le vide autour de lui et à tuer, en tout cas faire taire toute forme de contestation ?
Écoutez, moi je repars au sommet de la francophonie de septembre 1999, qui s'était déroulé à Moncton, au Canada, à la demande du président Chirac, puisqu'il y avait des désordres. Denis Sassou lui-même avait déclaré, je cite, « Tous les cadavres qui sont dans mon placard ne sont pas les miens. Avant que je ne m'en aille, ils doivent me précéder. » Je ferme la parenthèse. Ça veut dire quoi ? Tout ce cirque qu'il est en train de faire là sous les pseudo-procès, c'est une façon de liquider son passé pour qu'il n'y ait pas de témoignage. Comment pouvez-vous imaginer un homme comme Norbert Dabira, le général Norbert Dabira ? Quand Denis Sassou a fait son coup d'État, Norbert Dabira recevait ses ordres immédiatement de Denis Sassou. Comment se fait-il que ce monsieur-là, aujourd'hui, il se retrouve dans cette situation ?
Il est devenu trop gênant ? Ou victime peut-être d'une lutte de succession, de clan ?
Je n'en sais rien. Tout ce que je constate, que tous ceux pour lesquels, en dehors de Modeste Boukadia et les membres du parti du CDRC, tous ceux qui ont des ennuis aujourd'hui, ont participé à un déjeuner, à un repas, en 1996, dans l'appartement d'Ambroise Noumazalaï, dans le département 91, dans l'Essonne, ailleurs. Qu'est-ce qui s'est passé au cours de ce repas ?
Vous dites alors, Jean-Marie Michel Mokoko, Norbert Dabira, Jean-Martin Bemba ont tous participé à ce repas ?
Ce sont des gens qui, en 1996, ont été avec Michel Sassou. Mais aujourd'hui, la question n'est pas là. La question, c'est que tout ce désordre que Sassou fait, ça s'appelle l'absolutisme. C'est-à-dire, en fait, il est en fin de règne, il ne sait plus quoi faire, il amuse la galerie, et donc, comme ça, le peuple congolais se dit « Ah non, il est en train de faire du ménage ». C'est faux.
Effectivement, depuis sa réélection, on entend ce discours sur la rupture, la fin de la gabégie, la lutte contre la corruption. Alors, il nous reste seulement quelques minutes, Modeste Boukadia. Les auditeurs ont souligné aussi le rôle de la France. Denis Sassou Nguesso était à l'Élysée récemment, en tant que président du Haut Comité de l'Union africaine sur la Libye. Est-ce que vous avez perçu cette invitation comme un soutien de la part de la France à un président mal en point ?
Non, moi je pense que c'est une très bonne chose que le président Macron ait invité ou ait reçu Denis Sassou à cette conférence internationale sur la Libye. Le fait que Denis Sassou se soit présenté à cette conférence internationale sur la Libye, c'est aussi une façon de faire reconnaître à Sassou qu'il nous faut aller vers une conférence internationale que j'appelle de mes voeux des Nations Unies, qui sera sous l'égide des Nations Unies à l'extérieur pour régler les problèmes aussi cruciaux que ceux de la Libye.
Modeste Boukalia, vous dites finalement au président Sassou, puisque comme vous validez le fait que des conférences internationales se tiennent pour sauver un pays comme la Libye, il faut que le président Sassou valide aussi le fait, votre proposition à vous, c'est-à-dire que le fait que la communauté internationale se penche sur le cas du Congo.
Non, mais ce n'est pas ma proposition. C'est la proposition de tous les Congolais qui veulent que cette fois-ci, ils font arrêter avec l'accession au pouvoir par des coups d'État. Or, sans cette conférence internationale des Nations Unies sur le Congo, il est à craindre que toute accession au pouvoir passera par un coup de force.
On est bien clair, Modeste Boukadia, le Congo est sorti des radars de la communauté internationale. Pas de mention au Conseil de sécurité, peu d'enquête. D'ailleurs, on se souvient, quand la guerre du poulet a été redéclenchée, les ONG n'ont pas eu accès les ONG n'ont pas accès au Congo. Le Congo ne semble malheureusement intéresser pas grand monde.
Non, madame.
Peu de pays s'inquiètent pour le Congo.
Non, madame Hartmann, je ne vous permettrai pas de dire ça. En dehors de la France, en particulier de certains médias français, puisque vous m'avez reçu, mais certains médias français qui sont en...
Faire la théorie du complot, laissez mes confrères.
Je ne parle pas, ce sont des réalités. Mais quand j'étais aux États-Unis dernièrement... Quand j'étais aux États-Unis dernièrement, le Congo était bien sur la table de la Maison-Blanche. Donc en France aussi, mais on communique mal sur le Congo. Et aujourd'hui,
il y a des lobbies français qui empêchent de parler du Congo ici en France.
Malheureusement, je crois que Denis Sassou doit avoir un petit carnet et certains lobbies ne veulent pas que Sassou parle. Ils n'ont pas peur de Sassou, mais ils ont peur que Sassou parle.
Ils ont peur, en tout cas, pour leurs intérêts.
Certainement, oui. Mais vous savez, nous sommes déterminés à aller vers cette conférence internationale qui permettra de mettre à la même table tous les partis politiques, la société civile et naturellement...
Mais comment, Modeste Boukadia, disposez-vous du même carnet d'adresse de Denis Sassou Nguesso que Denis Sassou Nguesso?
Vous savez... le sommeil d'un criquet, il n'y a qu'un autre criquet qui peut l'apprécier. Voilà, donc je pense que c'est cette voie-là de la conférence internationale qui permettra de renouer avec la démocratie, avec la bonne gouvernance et mettre fin finalement à ce qu'on appelle la faillite frauduleuse qui coûte aujourd'hui, qui amène le Congo dans une détresse absolue.
Merci Modeste Boukadia d'avoir été notre invité, d'être venu jusqu'à nous. Je rappelle que vous êtes le président du Cercle des démocrates et républicains du Congo. Vous appelez à une conférence internationale sur la République du Congo. Bonne journée à vous, Modeste Boukadia.
Merci beaucoup Madame Hartmann, merci beaucoup.
C'est notre technicien Maxime Salin qu'on remercie bien sûr pour la réalisation de cette émission. Merci à tous aussi, chers auditeurs, de votre participation. On se donne rendez-vous demain, mardi 5 juin, pour une nouvelle édition du journal des auditeurs. Nous parlerons des drôles d'ambition de Monsieur Ouattara, c'est en Côte d'Ivoire. N'hésitez pas à vous inscrire en nous envoyant un mail jda@africa1.com. En attendant, prenez grand soin de vous et des autres aussi, c'est important. À l'écoute d'Africa numéro 1, la seule, l'unique radio africaine. À demain.